Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je vous fais un épisode qui est un peu, c'est un bon épisode à partager. Vous savez, un ami ou une amie qui veut commencer la course, qui sait pas trop par où commencer. Je vais un peu énumérer c'est quoi les bases, c'est quoi le minimum selon moi que ça prend pour la course. Et ben, spoiler alert, ça prend pas grand-chose. C'est selon moi le sport qui nécessite le moins de choses pour le pratiquer, donc le sport le plus accessible, et c'est pour ça que j'adore ce sport, une des raisons pourquoi. C'est ça, je vais aussi aller un peu plus en profondeur pour certains points. Donc selon moi, c'est aussi ça s'adresse aussi à du monde ben average qui font déjà de la course, qui sont déjà là-dedans, mais pour voir peut-être qu'il y a certaines choses que vous pourriez changer, que vous n'avez pas déjà pensé que vous pourriez faire. Et aussi, peut-être ça se peut qu'il y a des affaires que vous êtes en désaccord. Ben, je vous inviterai à laisser savoir en commentaire, parce que peut-être qu'il y a des affaires sur lesquelles j'ai tort. Mais je pense que j'ai quand même de la pas pire expérience, donc je devrais avoir quand même quelques bons conseils là-dedans pour commencer ou pour continuer à faire de la course. Tout d'abord, juste avant de commencer ça, j'aimerais beaucoup remercier mes Patreons, ces personnes qui me versent 3 $ par mois ou un peu plus sur ma page Patreon. Donc j'ai Frédéric Vien, Marc Pagé et Mathieu, Matt Paul. Je ne sais pas s'il veut que je dise son nom complet, donc pour l'instant, je vais laisser ça à Matt Paul, parce que c'est ce qui est écrit sur Patreon. Pour les prochaines fois, je pourrai dire le nom complet. Et à ces deux-là, Marc Pagé et Matt Paul, je ne vous ai pas encore donné de shout-out parce que vous avez commencé vers la fin avril. Donc, vous aurez droit à un deuxième shout-out une deuxième fois ce mois-ci, bien sûr. Aussi, Rolando Gomez, Tristan Garcia et Vincent Nadeau-Benoît. Je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié. Ça m'encourage à continuer à faire ça. Donc, si jamais vous voulez vous aussi avoir un shout-out dans un futur épisode, eh bien, vous pouvez aller sur la page Patreon Le Monde de la Course pour donner ces 3 $ par mois. C'est US. Vous pouvez donner moins, vous pouvez donner plus comme vous voulez, mais à partir de 3 $ par mois, vous pouvez avoir un shout-out pour un épisode par mois. Je me suis fait une petite liste des choses. J'y vais en ordre d'importance ensuite, ça va être du plus important au moins important. Et je vais dire un peu, j'ai certaines barrières de là, c'est là que je pense qu'avec ça, tu as ce que tu as besoin. Ensuite, ça, c'est, t'es au niveau 2, puis niveau 3. Alors, tout d'abord, l'item numéro 1, je pense que ça va pas faire la surprise. Ça prend des souliers de course. Donc, évidemment, il y a certaines personnes qui prônent le minimalisme extrême de courir nu-pieds. J'ai déjà moi-même été un peu dans ce style. Je pense, dans le temps que je courais pour le cégep André Laurendeau, je voulais faire le marathon de Montréal nu-pieds. Puis tout le monde me regardait comme un weirdo quand je leur disais ça. Puis ils avaient un peu raison parce que, en tout cas, faire le marathon de Montréal nu-pieds, ça ferait mal parce qu'il y a beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton, puis beaucoup de petites roches. Ça se fait la course nu-pieds, mais plus sur des surfaces qui le permettent, comme du gazon, peut-être de la terre battue, dépendamment c'est quel type de terre battue. En général, pour 99,9% des gens, ça prend des souliers de course. Pour certaines personnes, ça peut être un casse-tête. Est-ce que j'ai besoin minimaliste, maximaliste? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour s'occuper de ma pronation? Honnêtement, au début, quand tu commences, c'est un peu difficile de savoir, t'sais, orienter plus vers quel style. Moi, je me souviens, j'ai déjà eu. Au début, j'ai commencé. Je me souviens pas exactement c'était quoi mon premier soulier de course. Mais je me souviens que c'était un petit peu average. Donc, c'était pas complètement minimaliste, pas complètement maximaliste. Et pour ceux qui se demandent, qui sont des noobs complets de la course, qui ne savent vraiment pas c'est quoi, ben je vais vous expliquer un peu ces termes-là. Minimaliste, c'est un soulier qui est très petit, très peu épais, qui a un petit drop. Donc, il y a une très petite différence ou aucune différence entre la hauteur du talon et la hauteur de l'avant-pied. Tandis que les souliers maximalistes, c'est des souliers qui sont très épais, beaucoup d'épaisseur, beaucoup de cushioning pour protéger le pied. Et c'est vraiment deux écoles de pensée qui ont l'air qui sont aux antipodes et qui comme des fois, on a l'impression qu'ils se battent un peu pour dire non, il faut que t'aies le moins possible. Ben, la philosophie du minimalisme, c'est que moins tu as sur ton pied, plus tu vas entraîner les muscles de ton pied, les mollets, et que les souliers traditionnels, dans le fond, ont un peu affaibli nos muscles des jambes et des pieds, ce qui n'est pas bon, et que donc il faut aller vraiment minimaliste pour être le plus près de courir nu-pied, et que c'est là vraiment qu'on va courir de la meilleure façon. Donc ça, c'est un peu la philosophie minimaliste, tandis que la maximaliste, c'est plutôt tu mets beaucoup d'épaisseur, puis de même, t'as moins de choc, donc tu as moins de douleur. Et j'ai déjà essayé les deux. J'ai eu un gros mood minimaliste, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, à mes débuts de ma course, de quand je commençais à courir. Donc, j'étais vraiment rentré là-dessus. J'achetais beaucoup de souliers minimalistes. Puis tout d'un coup, là, il y a eu la popularité des Hoka One qui étaient des souliers, les premiers vraiment souliers maximalistes, que là aussi, j'ai ensuite, une fois que j'ai passé ma phase minimaliste, j'étais encore dans cette phase, mais je me suis dit, ah, je vais en essayer un. J'en avais trouvé un en sol, et j'ai essayé ça, puis j'adorais ce soulier-là. Donc là, j'étais un peu plus dans ma phase maximaliste. Mais où est-ce que je suis aujourd'hui là-dedans? Je vous dirais, honnêtement, c'est mieux d'avoir un soulier, du moins si tu commences, c'est de commencer avec un soulier qui est vraiment entre les deux, qui est un soulier average, qui est pas trop épais, mais pas trop, pas épais, parce que toute notre vie, on est à la base habitué déjà à des souliers assez épais. Donc, tu veux pas faire une grosse transition trop abrupte en passant des souliers standards à des souliers ultra minimalistes comme des Five Fingers, qui sont comme les souliers avec les orteils. Donc moi, ce que je recommanderais pour quelqu'un qui commence, c'est de se prendre un soulier qui a un drop de 6 à 8 mm. Donc ça, c'est vraiment le standard de drop. Donc pour ceux qui ne comprennent pas vraiment la drop, j'ai déjà un peu expliqué, mais je veux juste vraiment prendre plus le temps pour ceux qui sont débutants. Dans le fond, tu as la hauteur au niveau du talon, et tu as la hauteur qui est une certaine épaisseur de semelle, et ensuite au niveau de l'avant-pied. Et en général, c'est toujours un peu plus épais au niveau du talon parce que avec le dans le, c'est une question de tradition, les coureurs ont souvent attaqué du talon, et c'est juste une question de course même naturelle. Juste quand on est habitué d'avoir un soulier, on a besoin un petit peu de ça. Ça va, selon moi, un drop de 6 mm. Donc, on est 6 mm plus élevé en arrière, 6 à 8. C'est standard. Ça va faire la job pour la majorité des gens. Et combien est-ce qu'on devrait payer pour ces souliers-là? Il y a beaucoup de gens qui vont commencer ça et qui vont avoir l'impression qu'ils doivent payer 200 $ ou 180. Souvent, quand on rentre dans un shop, c'est ça les prix, qui vont nous être recommandés, les gros ASICS ultra épais, Cumulus, Nimbus, je sais pas trop combien. Selon moi, c'est beaucoup trop cher à payer. Tout d'abord, il y a deux endroits, vraiment deux antipodes où tu peux aller chercher tes souliers. Tu peux soit les acheter en ligne, souvent c'est ça qui va être le moins cher, ou tu peux les acheter à un magasin spécialisé de course. Chacun a ses bénéfices. C'est sûr que tu vas payer plus cher si tu vas dans un magasin spécialisé de course en général, mais tu vas avoir les bénéfices qui viennent avec. Donc tu pourras recevoir des bons conseils des personnes qui travaillent là, puis souvent ils ont un club de course, ces endroits-là. Donc je pense à la maison de la course, à la boutique Endurance, la boutique courir, désolé, le running room, désolé si j'en, le coin des coureurs, désolé si j'en oublie d'autres, mais souvent ces places-là ont des clubs de course eux-mêmes, donc quand tu achètes de leurs souliers, ben tu peux bien sûr les rejoindre. Je pense que tu pourrais même s'en acheter, mais là, je pense que tu serais un peu scumbag, même pour moi, de faire ça. Donc, puis tu as un peu le milieu, je dirais, c'est mettons le Sport Expert, donc les magasins pas spécialisés. Personnellement, je recommanderais jamais d'aller acheter là. Oui, des fois, ils vont peut-être avoir des rabais, mais généralement, ça va pas être aussi peu cher qu'en ligne. Et tu n'auras pas nécessairement les. En fait, tu n'auras pas les meilleurs conseils, à moins d'être vraiment chanceux, parce que souvent, c'est des commis qui sont pas nécessairement spécialisés en course, qui essaient juste de vendre un peu tout, puis que c'est pas sur leur passion. Tandis que si tu vas à une boutique spécialisée de course, je suis à peu près sûr que 95% des gens qui travaillent dans une boutique de course, c'est des passionnés eux-mêmes de course. Donc, en général, leurs commentaires, leurs conseils devraient être meilleurs. Donc, selon moi, si tu commences, c'est pas une mauvaise idée d'aller à une boutique spécialisée de course, juste pour pouvoir essayer tout d'abord les souliers, les mettre sur ton pied, voir comment ils sentent. Quelle marque acheter? Moi, évidemment, je suis avec Skechers. Mais je ne vais pas faire comme si Skechers était la seule compagnie qui fait des bonnes chaussures. Il y a plein de compagnies qui font des bonnes chaussures. Elles sont toutes un peu différentes. Selon moi, il faut essayer un peu de tout. Personnellement, j'aime Skechers parce qu'ils ont quand même, ils réussissent à avoir beaucoup de souliers dans des price brackets plus bas, donc des prix. Pas trop exorbitant. Ils ont certains modèles aussi qui sont dans le high-end, mais donc j'ai un peu mon billet pour eux. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé. Mais vraiment, il y a pas de marque terrible. Toutes les grosses marques, il y a Saucony, il y a New Balance, il y a Nike, il y a Adidas, tout ça. Je pense un de mes premiers souliers, c'était un Adidas, je pense Adizero, Boston, je suis plus trop sûr, mais j'ai déjà essayé plein de souliers. Avant, j'avais de tous les souliers, j'avais à peu près toutes les marques. J'ai déjà essayé des Saucony, j'ai déjà essayé des New Balance, puis honnêtement, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Donc, essayez différentes sortes, puis voyez qu'est-ce qui vous va. C'est ça, mais c'est surtout regarder c'est quoi les prix, regarder c'est quoi qui va aller avec votre budget. Et là, je dis d'aller dans les boutiques. Là, en ce moment, vous allez me dire, mais oui, mais je peux pas aller dans les boutiques avec le coronavirus. Eh bien, je sais qu'il y a certaines boutiques spécialisées qui te permettent de visiter leur site ou de les appeler. Et ils peuvent te donner des conseils au téléphone. Ils peuvent donc c'est sûr c'est pas aussi bon que si on allait sur place, mais considérant la situation actuelle, selon moi, ils peuvent quand même écouter. Vous dites ah, des fois j'ai mal au genou, donc ils vont vous conseiller un soulier qui devrait peut-être aider vous aider. Je sais que je pense qu'il y en a certains qui font la livraison. Je pense entre autres à la maison de la course. J'avais vu plusieurs posts Facebook de gens qui s'étaient fait livrer personnellement des souliers. Vous pouvez faire ça avec ces compagnies, ces petites boutiques de course. Ou sinon, vous commandez en ligne aussi. C'est juste sûr, par contre, il y a quand même des bons délais. Ces temps-ci, je sais que sur Amazon, des fois ils disent que ça va prendre un mois le recevoir, c'est pas tout le temps le cas, mais selon moi, ça va être si vous voulez vous mettre à la course, vous voulez commencer là, vous allez pouvoir commencer plus vite en faisant affaire avec une boutique de course qui devrait pouvoir vous livrer en 1 ou 2 jours. Aussi, une question qui peut venir des fois, est-ce que j'ai besoin justement de pronation, de souliers pour la pronation? Moi, je n'y crois pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'études qui prouvent que les souliers anti-pronation aident vraiment à réduire le risque de blessure. C'est toujours, il y a toujours les vendeurs vont toujours essayer de vous recommander. Si vous dites que s'ils trouvent, ils analysent votre technique, puis ils trouvent que vous faites de la pronation, ils vont essayer de vous vendre ces sujets-là. Il n'y a pas de preuves scientifiques. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des bonnes expériences avec, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des moins bonnes expériences avec, mais scientifiquement parlant, il n'y a pas d'études qui montrent que ça aide à réduire les blessures pour les personnes qui font ça, de la pronation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de la pronation, c'est dans le fond, idéalement, on voudrait atterrir parfaitement, mais il y a des gens qui atterrissent un peu à l'intérieur du pied, à l'extérieur du pied. Donc, ça varie. On est tous uniques. On n'a pas tous la technique de course parfaite quand on commence. Ça peut devenir problématique si notre technique devient de plus en plus pire, si on fait beaucoup plus de pronation d'un côté ou de l'autre. Mais en général, selon moi, ces souliers-là, j'ai porté ces souliers-là moi-même. J'ai pas de problème. Personnellement, j'ai pas eu de problème avec. Mais ce que j'ai un problème avec, c'est souvent le markup de prix qu'ils vont charger pour. Donc, souvent, ils vont chercher 20-30 $ de plus pour ces souliers-là, qui vont être souvent plus lourds, qui vont pas apporter grand-chose à mon avis. Ça se peut qu'il y a certaines personnes ou plusieurs personnes qui ont déjà, qui swear by that, qui trouvent que les souliers de pronation, c'est vraiment ce qui les sauve. Tant mieux pour vous, continuez. Je vous dis pas d'arrêter, mais selon moi, je dis juste, si c'est la première fois, essayez pas avec des souliers de pronation. Seulement si vous avez vraiment un problème, puis que vraiment tous les souliers, comme on dit, neutres, donc les souliers standards, ne font pas la job, vous pouvez peut-être essayer. Mais pour commencer, ne vous faites pas avoir par les upsells des vendeurs qui vont vous dire: ah, vous avez besoin de souliers de pronation. Quel est le prix juste? Une petite note que je m'étais dit. Combien est-ce que vous devriez payer en ligne? Si tu achètes en ligne, tu peux trouver dans des modèles assez cheap pour 70, 80, 90. Si tu es capable de commander aux États-Unis, souvent, des fois, il y a des personnes qui font ça déjà, qui achètent d'autres affaires aux États-Unis, qui font livrer ça à Burlington ou des affaires de même, puis qu'après ça, ils vont le chercher. Eh bien, ça, tu peux le trouver pour encore moins cher. Mais si, comme la majorité des gens, tu dois acheter en dollars canadiens, souvent, ça va être ça. Ça va être minimum 70, ces temps-ci surtout, vu qu'il y a moins de rabais. Ça peut monter, selon moi, par exemple, ma blonde a récemment acheté une paire de souliers Skechers qui était autour de 105 $, qui était quand même assez dans les low end du high end, donc qui était quand même assez bon. C'est aussi acheter des vraiment cheap pour 70$. Ça devrait être les prix que vous devrez payer. C'est correct si tu en vas jusqu'à 120, 130 en ligne, mais selon moi, vous devriez pas payer plus que 130. Ensuite, si tu vas dans une boutique, ça, tu vas payer un peu plus cher, mais ce que tu payes pour, c'est les conseils des vendeurs qui vont te donner. Et aussi, tu payes potentiellement pour le club de course que tu rejoins, que ce soit avec le running room, avec boutique courir, maison du coureur, endurance. La communauté qui vient avec ça, c'est un peu pour ça que tu payes. Donc, si tu profites de ce service, ça fait du sens de payer le plein prix pour les souliers, pour qu'eux, ben, ils puissent avoir une job et vivre. Selon moi, c'est ça. Ça peut aller jusqu'à 180, 200 $, mais je pense pas que tu devrais payer plus que 200 $ pour une paire de souliers, même dans une boutique spécialisée. À moins que ce soit vraiment des souliers pour une course. Je pense par exemple au Vaporfly ou les Skechers Speed Elite. Peut-être si c'est un soulier que tu vas vraiment porter très peu souvent, seulement en course, que tu vas pas trop user, tu peux payer l'argent de plus pour la performance que ça va t'amener. Mais sinon, pour un soulier, un daily trainer, un soulier que tu vas utiliser à tous les jours, selon moi, tu payes autour de, si tu vas en boutique, autour de 120, 130, peut-être 140. Il y a toujours des modèles des années précédentes ou à peu près toujours qui sont en vente pour moins cher. Je recommande à peu près toujours de prendre le modèle de l'année précédente. Souvent, les améliorations sont assez mineures. Il y a peut-être des exceptions où est-ce que là, t'as tout un gros overhaul, t'as quelque chose qui change beaucoup. Mais la majorité du temps, tu es bien correct avec le modèle de l'année précédente pour sauver quelques dizaines, vingtaines, trentaines, peut-être quarantaines de dollars. Et c'est ça, en ligne, un petit peu moins. Devrait aller autour de 80, 90, 100 pour un bon soulier. Il faut s'assurer que c'est un soulier de course, okay? Pas un soulier de sport. Ça peut être une erreur commune de certaines personnes. Des fois, tu penses que tu as acheté un soulier de course, mais c'est vraiment un soulier de sport. Puis là, tu cours, puis là, tu commences à avoir des douleurs. Mais c'est parce que ce soulier-là n'est pas fait pour la course. Il peut être fait un peu plus pour des sports en général. Donc souvent, les souliers de sport, ça va être pour du badminton, du basketball, du tennis. Donc, qui vont être faits pour avoir beaucoup de friction, puis être prêts à tourner sur des petits moments. Mais les souliers de course, c'est pas fait de la même façon. C'est fait vraiment pour être capable de manger du millage, de manger beaucoup d'asphalte, de béton. C'est fait pour être très confortable, pour pas avoir de douleur. Après avoir couru des 5-10 km. Donc, c'est important que ce soit un soulier de course. Mais une fois que c'est un soulier de course, selon moi, que tu payes 70 ou 150 $, tu peux avoir à peu près le même, une équivalence en termes de confort, en termes de durée de vie. Des fois, c'est juste une question de look. Ou ça peut être une question qu'il y a un petit peu plus de remontissement, que tu vas aller un petit peu plus vite dans ton entraînement. Mais pourtant, vraiment, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est que tu travailles un certain effort. Donc, selon moi, tu peux vraiment aller. C'est bon de souvent aller dans les modèles les moins chers parce que ben plus tu fais de la course, plus tu vas devoir acheter de souliers. Donc, tu veux t'assurer qu'à chaque fois, tu ne dépenses pas trop pour ça. Le technique de course, il y a l'attaque du talon versus l'avant-pied versus le milieu. Comment est-ce que tu devrais courir? Eh bien, avec il y a plusieurs personnes dans les années 80-90, c'était le gros trend, c'était l'attaque du talon. Donc, que tu atterrisses sur ton talon et ensuite tu transfères vers le milieu du pied et ça finit à l'avant du pied. Donc, vraiment. Un mouvement en anglais, c'est le terme, c'est un peu le style de rocker. Je ne sais pas trop exactement comment traduire ça, mais bref, que c'est vraiment une transition, un roulement un petit peu. Plus récemment, ça a été un peu. Ça a été très beaucoup attaqué. Et maintenant, on parle beaucoup plus d'atterrir sur le milieu du pied. Certains même qui disent vraiment l'avant du pied. Mais en général, selon les analyses biomécaniques juste si on regarde les top coureurs du monde, très souvent ils arrivent à peu près sur le milieu de leur pied. Donc tu veux être un petit peu au milieu, tu veux pas complètement arriver sur tes orteils parce que là ça va pas être efficace parce que tu vas arriver sur tes orteils et ensuite tu vas tomber vers l'arrière. Mais ce qui arrive lorsque on attaque du talon, c'est qu'on va défoncer nos genoux. Le choc remonte directement jusqu'au genou. Et je l'ai vécu à mes débuts, j'attaquais pas mal du talon. Même un certain temps, j'essayais vraiment d'attaquer du talon parce que j'avais l'impression que c'était efficace. Et à un certain niveau, au début, c'est efficace. Mais après avoir couru un marathon en attaquant du talon, je me suis défoncé les genoux et après ça m'a pris 2 mois pour récupérer. Donc, il faut éviter d'attaquer gravement du talon. C'est sûr que naturellement, la plupart des gens attaquent un petit peu du talon quand ils courent parce que on est habitué d'avoir des gros souliers épais avec un gros drop, un gros talon. Il faut juste essayer de consciemment essayer d'atterrir un petit peu plus sur l'avant du pied, mais faut pas virer fou non plus avec ça aussi. Il y a des gens qui font 1 million d'exercices pour essayer de corriger ça. Selon moi, ça vient juste en courant plus. Plus tu cours, plus tu vas t'en aller vers une technique de course optimale. Puis si tu fais juste consciemment l'effort de ne pas trop attaquer du talon, qui peut être optimal quand tu es au début, mais si tu fais juste un petit peu d'effort de consciemment arriver plus sur le milieu du pied, ben là, tu vas transitionner à un style plus de milieu du pied ainsi vous pourrez finalement avoir une technique beaucoup plus efficace sur le long terme. Donc, bon, finalement, j'ai passé plus de temps que je pensais sur ce point-là, mais c'est quand même un point très important, le point de la technique, de la technique course et des souliers courts. Et honnêtement, c'est tout ce que vous avez besoin si vous voulez faire la course. Le reste, ça va être un peu de l'extra. Selon moi, c'est quand même des nécessités. Puis ensuite, je vais mentionner quand on va vraiment dans les extra, extra. Mais à la base, si tu veux courir, tout ce que tu as besoin, c'est des souliers de course. Pas besoin de rien d'autre. Moi, je me souviens à mes débuts de course, j'avais pas des shorts spécifiques de course, j'avais pas des t-shirts spécifiques de course. Honnêtement, je me souviens, j'avais des shorts cargo, des pantalons cargo. Puis je me souviens, je faisais mes entraînements avec l'équipe du Cégep André Lando, puis le monde me regardait tout croche. Puis ils avaient un peu raison de me juger parce que c'était vraiment pas efficace pour courir. Mais ça faisait la job. C'est sûr, tu peux avoir. C'est pas tout le monde qui vont pouvoir faire ça. T'as certaines personnes qui vont souffrir du chafing, de la friction. Je pense entre autres aux sous-vêtements aussi, que si là tu t'en vas faire une longue sortie dans des sous-vêtements entièrement de coton, là tu pourrais avoir des conséquences irritantes. Mais à la base, si tu vas sortir pour faire des 30, 45 minutes, selon moi, des souliers de course, c'est tout ce que tu as besoin. On va ensuite aller au deuxième item que je pense qui est le plus important. Et selon moi, c'est d'avoir une montre. Donc, moi, depuis le début que je fais de la course, j'ai toujours eu une montre. À mes débuts, puis je dirais pas, en fait, depuis pendant 6 ans probablement, ça fait seulement 1 ou 2 ans, ça fait 2 ans environ que j'ai une montre GPS. Mais à la base, la grande majorité du temps que je courais, j'avais simplement une montre, c'était une Timex Ironman. Shock resistant. Tout ce que tu as besoin, c'est une montre. Je recommande bien sûr une montre digitale, pas une montre analogue, mais une montre digitale que tu as la fonction chronomètre et que tu es capable d'avoir un bouton start-stop puis faire des splits. Selon moi, ça fait une énorme différence. Pourquoi? Pour chronométrer vos sorties, donc savoir combien de temps vous êtes allé courir, parce que honnêtement, c'est très difficile d'estimer combien de temps on court. Encore plus à vos débuts. Sûr, avec un peu d'expérience, on peut commencer à avoir des idées pour estimer. Mais au début, on n'a absolument aucune idée combien de temps on est sorti. Surtout au début, quand c'est pénible, le temps peut paraître plus long. Donc, selon moi, très, très, très important, très utile, parce qu'une fois que tu as terminé, tu peux regarder combien de temps tu as fait, tu as le sentiment d'accomplissement. Yes, aujourd'hui j'ai fait 20 minutes, aujourd'hui j'ai fait 30 minutes. Donc, selon moi, c'est vraiment super d'avoir ça. Puis, si jamais vous voulez faire des intervalles, mais là, d'avoir l'option de split, donc pouvoir faire des laps. C'est vraiment très utile ensuite de ça, tu peux mettre le temps que tu as couru dans ton plan d'entraînement. Vraiment, c'est ma grande recommandation. Le deuxième item que je recommande de vous procurer si vous commencez la course, c'est une montre, juste une montre digitale. Tu peux en trouver, je regardais sur Amazon, tu peux en avoir pour 50, 40 piastres qui vont faire entièrement la job. Est-ce que tu as besoin d'une montre GPS? Selon moi, c'est pas du tout nécessaire quand on commence, surtout quand on ne sait pas si on va faire de la course pour longtemps. Les montres GPS, ça peut être quand même assez cher. Ça, tu peux trouver des montres GPS pour autour de 100 $, mais souvent ces montres-là, ça va pas être les GPS les plus précis et ça va pas synchroniser avec Strava. Donc oui, tu pourras voir combien de kilomètres tu as parcouru, puis quelle est ton allure, mais après ça, il va falloir que tu rentres tout ça manuellement dans ton plan d'entraînement. Selon moi, ça vaut pas la peine de se procurer ce type de montre-là. J'en ai déjà eu une qui a fait la job pour les courses pour lesquelles je les ai utilisées, mais vraiment, je n'utilisais pas tant que ça. Maintenant, là, j'ai une Garmin Forerunner 235. Ça donne ta fréquence cardiaque, ça donne puis toutes les données GPS standard. Et ça se synchronise automatiquement avec ton cellulaire. Je sais qu'elle vaut environ 230 $. J'ai été chanceux, je l'ai eu en cadeau d'un ami. Merci, Julio. Dans le fond, c'est ça. Cette montre-là, je sais qu'elle vaut autour de 230. Peut-être qu'en rabais, tu peux l'avoir autour de 200 $. Mais c'est quand même un gros investissement que je pense pas que les gens qui commencent la course devraient faire, à moins qu'ils savent qu'ils vont s'y mettre. Selon moi, ça vaut pas la peine quand on commence. Tu peux utiliser Strava sur ton cellulaire. Strava, qui est un peu un réseau social des coureurs et des cyclistes, qui offre la fonction. Avec votre cellulaire, vous faites cliquer Start et vous n'avez même pas besoin d'avoir de données. Tout ce qu'il faut, c'est avoir du Wi-Fi quand vous partez. Et ensuite de ça va pouvoir vous dire votre allure avec le GPS de votre cellulaire sans utiliser de données. Une fois retourné, quand vous aurez du Wi-Fi, vous pourrez synchroniser ça. Vous pourrez ainsi voir combien de temps, combien de distances vous avez parcouru, ça va être automatiquement catalogué sur votre compte Strava. Ça prend rien, ça prend juste un cellulaire que selon moi, 90%, 95% des gens ont un téléphone intelligent qui est capable de faire ça. Peut-être que je surestime, mais vraiment la majorité des cellulaires sont capables de supporter cette application-là. Tout ce que tu as besoin, c'est d'amener ton cellulaire, soit d'avoir des poches, ça va être des bonnes poches dans lesquelles le cellulaire ne shake pas, ça va être un point que je vais aborder un peu plus tard, ou sinon de s'acheter un brassard, un armband que tu peux acheter pour 20$ ou 10$ même, sûrement sur Amazon ou d'autres endroits, ou Best Buy, tu peux sûrement trouver ça aussi. Pour 20$, c'est l'équivalent. C'est un petit peu plus gossant parce que il faut que tu trimbales ton cellulaire avec toi. Mais honnêtement, si tu n'as pas un workout à faire, un entraînement, ça va déranger un petit peu, mais pas tant. Ça vaut l'argent sauvé sur une montre, surtout quand on n'est pas sûr qu'on veut faire cet investissement-là encore. Donc, selon moi, c'est le deuxième item le plus important, et selon moi, c'est quand même un must d'avoir juste une montre de base qui peut chronométrer nos sorties pour savoir combien de temps on court, puis avoir le sentiment d'accomplissement une fois qu'on l'a complété. Ou bien si on commence, des fois on va faire une alternance course-marche, mais de pouvoir faire OK, je vais faire 5 minutes de course, 5 minutes de marche alternée, mais tu peux le calculer parfaitement avec ta montre plutôt que d'y aller à l'œil. Troisième item le plus important, c'est un chandail de course, une camisole. Pour les hommes, je dirais plutôt que c'est les shorts de course qui sont plus importants, mais dans la même catégorie de chandail de course et camisole, j'ai inclus les brassières pour les femmes. Une grande proportion des femmes vont avoir besoin d'une brassière. Je vais amener ma blonde pour vous jaser un petit peu de ça. Sophie va un peu nous jaser de brassière parce qu'elle a plus d'expérience que moi avec ça.
Bon, pour commencer, c'est sûr que ça dépend de la poitrine de chacun, mais je vous dirais que c'est important quand même de magasiner ça. Il y a différents modèles qui sont en vente finalement dans les magasins. Dans le fond, les différents modèles offrent un soutien différent en fonction de la poitrine de chacun finalement. En général, on veut une brassière de sport vraiment qui est adapté pour la pratique sportive. Fait que dans le fond, souvent, le tissu va être plus respirant qu'une brassière régulière. Et puis, ça offre un soutien qui est beaucoup plus élevé qu'une brassière régulière aussi. Parce que dans la course à pied, bien, c'est sûr qu'on rebondit finalement un peu, là. Fait qu'on veut que tout reste bien en place. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce qui est recommandé quand on achète une brassière de sport, c'est d'avoir des bretelles à l'arrière du dos qui sont croisées ou en Y, comme le dos des maillots de bain finalement. Parce que cette façon de placer les bretelles-là laisse plus place au mouvement. Fait que ça va éviter la friction finalement en courant. Sinon aussi, il y a quelques brassières de sport qui sont un peu comme des brassières régulières finalement, que quand on achète, on a la même classification finalement, tu sais, avec le bonnet, le tour de taille, tout ça. Fait que idéalement, c'est de choisir une brassière de sport à la même taille que votre brassière régulière. Pour les personnes qui ont de plus faibles, ben, qui ont des poitrines moins grandes finalement, ben, le soutien est peut-être moins nécessaire finalement. Parce que c'est ça, là, il y a moins de gravité finalement, là, fait que vous pouvez avoir des modèles qui sont peut-être moins ajustés, mais je vous dirais que c'est le confort avant tout. Fait que si vous avez la chance d'essayer les brassières, ben, je pense que c'est un must, là. C'est sûr qu'en ce moment, avec la situation, c'est moins évident, mais d'y aller vraiment avec les mesures standards finalement, là, les mesures qui vous font normalement avec des brassières régulières. Puis c'est ça, quand on essaie la brassière, c'est de vérifier que tout est bien ajusté finalement, que l'espace entre les bonnets colle bien à la peau. Fait qu'en gros, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour les brassières de sport qui sont pas intégrées à des chandails. Parce que vous allez voir en vente, il y a des camisoles qui intègrent déjà la brassière ou des chandails qui l'intègrent aussi. Mais je trouve que c'est moins pratique puis c'est souvent moins ajusté. Tu sais, au lieu d'avoir toutes les grandeurs comme une brassière, finalement, les A, B, C, D, puis les tours de taille, ben là, c'est juste small, medium, large. Fait qu'il y a beaucoup moins d'ajustements possibles. Puis personnellement, moi, j'ai jamais trouvé une camisole ou un chandail que la brassière intégrée me faisait correctement. Fait que c'est pour ça, je pense que...
Moi non plus.
Toi non plus. Mais c'est ça, c'est une question de préférence. Peut-être que de votre côté, ça va être plus facile à trouver un chandail ou une camisole, puis vous avez une... Je pense que c'est vraiment une question de préférence, c'est de l'essayer puis de voir ce que vous préférez. Mais en gros, c'est ça, pas mal pour les conseils, là. Puis quand vous essayez de faire des mouvements, essayez de faire comme de la course sur place pour voir si ça rebondit, si vous voyez qu'il y a un soutien qui est assez, assez bien, finalement. Faites des mouvements de bras aussi, de droite à gauche, de haut en bas, pour voir s'il n'y a pas un frottement contre la brassière. Puis c'est ça, si vous avez des poitrines plus grandes, je vous conseille d'avoir des bretelles plus larges aussi de brassière de sport. Donc, je pense que ça fait le tour, en gros, du sujet, là.
Je sais pas.
Fait que c'est ça.
Merci, c'était, c'était la chronique féminine pour pas que je mansplaine les brassières de sport. Très important, j'ai déjà eu des expériences... de nipple chafing en tant qu'homme, je sais pas, c'est sûrement différent pour les femmes, c'est plus du remontissement, mais même en tant qu'homme, c'est aussi important d'avoir quand même un bon chandail ou camisole de course qui va pas trop irriter. C'est sûr, ça change d'une personne à l'autre. Ben, des marathoniens que eux, il faut absolument qu'ils mettent plein de vaseline sur leur nipple pour pas que ça finisse avec des nipples ensanglantés. Personnellement, j'ai déjà saigné des nipples, je pense, ou en tout cas, mon père l'a déjà fait, et moi, je me souviens, j'ai déjà eu des grosses irritations, et c'est étrange, ça peut arriver même quand tu cours en chest. Je pense pas que c'est uniquement que ça vient du frottement, mais je pense aussi que c'est du mouvement de haut en bas qui fait juste que ça revole en haut en bas, puis c'est j'ai l'impression que c'est ça un petit peu aussi qui peut venir jouer, parce que je me souviens, je suis rendu en chest puis ça me faisait mal, donc c'est quand même bien à considérer d'avoir un chandail ou une camisole de course. Je le mettrais pas aussi haut dans la liste si cette capsule s'adressait uniquement aux hommes, mais ça s'adresse aussi aux femmes, et pour les femmes, c'est quand même un must, à moins que vous aviez, à moins que vous ayez des petits seins qui rebondissent pas. Mais pour une grande proportion des femmes, c'est ultra important parce que sinon, vous pourrez pas courir. Donc, même que ça irait peut-être en haut de la montre pour la course. Mais bon, je suis un misogyne, alors je l'ai pas mis à ce niveau. Ensuite, le prochain item le plus important, ce sont des shorts de course. Donc, il y a plusieurs types de shorts de course. Il y a les short shorts versus des shorts de course un peu plus longs. Les short shorts peuvent parfois être vus comme indécents. Personnellement, en tant que coureur, au début, c'est sûr, je capotais un peu la première fois que j'ai mis les petits shorts de mon équipe du Cégep André Laurendeau. Je capotais parce qu'on voyait toutes mes jambes au complet, quasiment. On n'est pas habitué que ça en tant qu'homme, mais je vous dirais que plus on en met, plus on s'habitue. Puis honnêtement, pour moi, maintenant, c'est totalement standard. Puis j'ai absolument. Je comprends pas quand les gens me regardent croche quand je cours en short short. Puis il n'y a pas tant de monde qui te regarde croche, rendu. Les gens sont un peu habitués. Mais il existe aussi, donc ça c'est une possibilité. Moi j'aime beaucoup ça, c'est le fun surtout en été de sentir le vent sur tes jambes, de vraiment être très minimaliste. Moi j'aime bien ça. Ça se peut que ça soit pas pour vous, que vous aimez pas ça, ou du moins à vos débuts, vous voulez rester standard. Puis selon moi, c'est aucun problème d'aller vers des shorts plus longs, des shorts qui se rendent un peu au-dessus du genou. Honnêtement, à moins que tu fasses une course, tu participes à une course où est-ce qu'il faut vraiment faire le temps le plus bas, ça va pas faire une grosse différence. Donc, ça fait pas de problème, selon moi, allez-y avec des shorts longs, c'est ça que vous préférez. L'avantage des shorts longs est que des fois, seulement des fois, puis il faut vraiment bien chercher, des fois, ils viennent avec des poches. Et ça, c'est un aspect très important quand vous allez acheter vos shorts de course, c'est de s'assurer qu'ils aient des poches. Et ça fait toute la différence. Je vous dis, moi, je déteste les shorts de course qui n'ont pas de poche, à moins que ce soit des petits shorts que je comprends, puis qu'ils ont une poche derrière pour mettre les clés. Mais quand c'est des shorts, si on veut, longs, qui se rendent juste un peu au-dessus du genou. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de poche. Je sais que c'est juste pour couper des coûts dans la production, mais je trouve que ça les rend tellement plus inutiles. Des shorts avec des poches, tu peux les utiliser juste pour le day-to-day. Je me rends à un endroit avec ces shorts-là. Le monde ne me regarde pas tout croche. J'ai mon sel dans mes poches, j'ai mon porte-monnaie. Puis après ça, hop, je m'en vais courir. Puis c'est vraiment le fun, c'est ultra flexible. Donc j'aime beaucoup les shorts longs. Avec poche, quand j'en trouve dans le temps que je chopais pour ça, quand j'en trouvais pour pas cher, vraiment je me précipitais dessus. Donc c'est vraiment, si vous devez commencer avec un, je vous recommanderais ça, des shorts longs avec poche. C'est sûr, souvent ils vont charger un premium parce les compagnies s'assurent de mettre des shorts pas de poche à 30$, puis après ça, des shorts avec des poches à 40$. Puis là, tu te dis, ah, c'est juste 10$ de plus, mais tu payes quand même 40$. Selon moi, tu devrais te payer autour de, c'est ça, peut-être 30-40$ pour des shorts longs avec des poches. Des shorts courts, honnêtement, autour de 30, peut-être 40. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas chopé pour ça, mais selon moi, si tu cherches bien en rabais, tu devrais pouvoir en trouver. Ensuite, il existe aussi les tights, j'ai oublié le terme en français, mais c'est vraiment des collants un petit peu, puis tu peux en avoir des longs ou des pas longs, des leggings, ma blonde me dit. Donc oui, tu peux en avoir des plus courts qui vont se rendre jusqu'au-dessus du genou, tu peux en avoir des trois quarts qui se rendent en dessous du genou. Tu peux en avoir des longs qui font toute la longueur. En été, mettons, on va pas porter ça. Personnellement, j'aime quand même les leggings qui se rendent jusqu'au-dessus du genou. Donc vraiment, c'est un peu comme des shorts, mais en leggings. Je les porte pas en entraînement souvent parce que j'en ai pas tant. Mais pour les courses, maintenant, je mets juste ça. Parce que apparemment que pour l'aspect aérodynamique, c'est un peu meilleur. Et surtout, la grande raison pourquoi vraiment maintenant je porte tout le temps ça, c'est que j'ai aucun problème de chafing, de friction avec ceux-là. Avant, dans mes courses, mettons que je faisais un marathon, j'allais définitivement me mettre plein de vaseline proche de l'entrejambe pour m'assurer que ça finisse pas comme l'autre course avant où est-ce que c'était complètement irrité puis j'avais mal. Depuis que je porte maintenant des leggings de course, des short leggings dans mes courses, j'ai plus jamais pensé à ça. En dessous, je porte des culottes de course qui sont faites en polyester, qui sont aussi très respirantes. Mais ça aide à garder les choses en place, puis ça fait surtout que tu n'as pas de friction d'une cuisse sur l'autre. Et ça, j'ai souvent d'expérience, c'est ça une des faiblesses des shorts courts. Tu peux avoir de la friction entre tes cuisses après un certain temps, quand tu as beaucoup de sueur qui s'accumule, que ta technique de course devient moins bonne, moins efficace. Et ça peut faire très mal. Une autre raison peut-être pourquoi je priorise un peu l'achat des shorts longs avant les shorts courts. Il y a aussi un peu de ça. Les shorts longs vont t'aider à réduire cette friction-là tant que tu as un tissu assez doux qui te protège. Pour la friction de l'aiguille, si jamais c'est un problème pour vous, je vous dis essayez ça. Essayez les tights ou les shorts longs. Pour vos clés, souvent, quand j'étais débutant aussi, moi, c'était un peu ma crainte, c'était « Ah ben là, mes clés, ça va faire cling, cling, cling. » Puis c'est toujours gossant quand t'es quelqu'un dans le groupe qui a amené son trousseau de clés puis que ça fait cling, cling, cling tout le long qu'il court. Simplement, séparer la clé du trousseau, la clé que vous allez utiliser, donc la clé de votre maison, votre appartement. Moi, c'est ça que je fais à chaque fois, même que j'ai un double de clés de mon appart qui est juste séparé. J'ai celui que je garde sur mon trousseau, puis j'ai un autre, juste un double que je laisse sur le bord à l'entrée, puis que je prends pour mes sorties de course. Puis juste une clé tout seul, tu mets ça soit dans une poche, idéalement c'est une poche qui zippe. Ça peut tomber si c'est pas des bonnes poches, puis que tu le mets dans tes poches de côté qui zippent pas. Personnellement, je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois de dropper une clé, mais je l'entendais dropper. Parce que je faisais quand même un petit peu attention, puis t'entendais le petit ting, je l'ai ramassé après. C'est assez simple. Sinon, si t'as des gants, tu peux le mettre à l'intérieur de ton gant. Mais vraiment, c'est simplement ça. C'est simplement séparer la clé du trousseau et ensuite la mettre dans les poches, puis il n'y aura aucun problème. Là, c'est là que je mets la ligne, je trace la ligne vraiment pour ce qui est la base, que vraiment, selon moi, une fois que tu as tout ça, tu as vraiment la grosse base que ça prend pour la course. Le prochain point, je dirais, pourrait rentrer un peu là-dedans, mais honnêtement, je veux essayer de garder ça quand même minimaliste. Je veux pas que les gens pensent que la course est ultra compliquée, puis là je le fais paraître comme si c'est ultra compliqué. J'ai parlé déjà 48 minutes pour aborder les points des souliers course, des montres, des shorts, puis des chandails. Mais c'est juste que souvent on a plus de questions qu'on pense j'essaie de tout aborder ces points-là pour plus que vous ayez de questions, puis que briser les fourches pour seulement que vous ayez allié à la bonne fourche et que vous ayez votre réponse tout de suite. Vraiment, je veux dire, la base que ça prend, souliers de course, une montre, selon moi, c'est vraiment très important, brassière, chandail de course, camisole et short de course. Okay? Une fois que tu as ça, selon moi, tu as vraiment la base des bas. Je vais l'aborder un peu plus tard, mais selon moi, ça prend pas des bas de course. J'essaie de penser un peu à d'autres choses qui pourraient être comme perçues comme un must que j'ai pas mentionné. Souvent j'ai l'impression que c'est ça le point qui va revenir, les bas. Vraiment, selon moi, une fois que tu as ça, tu peux aller courir 2, 3 fois par semaine. Une casquette, peut-être, ma blonde me fait dire oui. casquette, ça peut être utile, mais selon moi, t'as pas besoin d'une casquette tant de course, à moins que une casquette de tennis, une casquette de n'importe quoi, souvent ça fait la job. C'est sûr, si c'est une casquette de yo avec une petite palette, puis comme ultra épaisse, puis pas respirante, ok, peut-être que là ça pourrait être utile. Mais si t'as pas peur des coups de soleil, si t'as de la crème, ou t'as de la crème solaire, t'en auras pas besoin. Mais oui, je dirais que c'est quand même un item. Merci Sophie. Quand même un item qui peut être important en été, mais je dirais pas que c'est dans les must. Si j'étais à faire une liste qui est juste les must, prenez des coups de soleil puis n'ayez pas de casquette. Là, on va aller ensuite sur des trucs que je pense qui peuvent être quand même assez importants. Un truc que je pense qui est très important si vous voulez réussir à rester motivé, à continuer à faire de la course, puis à faire plus que t'sais, des petits jogs, quelques petits jogs. Si vous voulez vraiment aussi essayer de devenir un peu compétitif, d'essayer de voir c'est quoi que vous pouvez faire, d'essayer de vous surpasser vos temps, eh bien selon moi, ça prend un plan de course. Et là, on se dit, mais là, il y a tellement de plans de course en ligne. C'est quoi le plan de course que moi, je devrais faire? Je vais vous donner des petites directives de base. Dire, selon moi, ça devrait avoir l'air de quoi l'entraînement, un plan de course pour différents niveaux. Ça se peut que je me trompe un peu dans mes approximations. Puis vous pourrez débattre avec moi après si vous n'êtes pas d'accord. Mais selon moi, je pourrais faire quatre catégories. Donc, la première catégorie, si vous êtes un noob complet, donc vraiment, vous n'avez jamais fait ça, vous êtes vraiment à vos débuts, vous êtes pas, vous avez très peu ou jamais fait de course dans votre vie, puis vous voulez essayer, commencer. Et selon moi, votre plan de course devrait avoir l'air quelque chose comme 20-30 minutes de jog par semaine. Puis là-dedans, c'est de l'alternance marche-course aux 5 minutes. Ou vous pouvez faire ça aux 2-3 minutes si ça va pas pour vous. Si vous n'êtes pas capable de courir 5 minutes consécutives, c'est pas grave. Ça fait pas de vous moins un coureur ou une coureuse. Oh, je vais juste ajuster ça. Donc, ça, c'est le plan selon moi pour. Un noob, quelqu'un qui commence, selon moi, deux petites sorties d'autour de 30 minutes, ça fait la job. Ensuite de ça, si vous êtes un peu plus, si vous êtes rendu débutant, donc que vous avez fait un petit peu de course déjà, puis vous voulez faire ça un petit peu plus sérieusement, essayer d'améliorer un petit peu vos temps, améliorer un peu votre technique de course, votre cardio. Bien, selon moi, ça aurait l'air d'un peu 2 à 3 sorties de 30 à 45 minutes de jog. Puis là-dedans, 0 ou 1 entraînement d'intervalle. Donc, peut-être de mettre un entraînement d'intervalle là-dedans. Peut-être qu'il y aurait bien des personnes qui seraient en désaccord avec ça. Moi, je me dis, je laisserais les personnes faire un entraînement d'intervalle juste parce que ça peut être le fun de faire ça. Ça met un peu plus de piquant. Qu'est-ce que c'est un entraînement d'intervalle? C'est quand tu cours un peu plus vite pour un certain temps. Après ça, tu prends un peu de repos, puis après ça, tu recommences. Je vais, dans le fond, je vous partagerai. J'ai fait un petit plan de base dans lequel j'ai mis certains entraînements d'intervalle. Je partagerai ça dans la description des podcasts sur YouTube et sur les diverses plateformes pour que vous puissiez aller voir ça sur Google Sheets. Ensuite, si vous êtes intermédiaire, donc ça fait quand même un bon bout que vous faites de la course, vous avez quand même assez d'expérience, 4 à 5 fois, 45 à 75 minutes de jog par semaine avec un ou deux entraînements d'intervalle. Là, vous voyez, le range est beaucoup plus grand. 4 ou 5, ça peut être des fois 3, ça peut être des fois 6. 45 à 75, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Et là-dedans, tu mets un ou deux entraînements d'intervalle. Selon moi, ce serait intermédiaire. Et ensuite, avancer 5 à 7 fois 60 à 90 minutes. Ça, c'est vraiment si tu es rendu quand même à un gros niveau, que c'est pas tout le monde qui pourra jamais se rendre à ce niveau-là, parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour courir à ce niveau-là. Selon moi, quand tu cours 5 à 7 fois, 60 à 99 par semaine, t'as plus de bénéfices, physiques. C'est vraiment pour ta santé en général. Les bénéfices sont uniquement pour courir plus vite. Donc, si vous faites la course simplement pour votre santé en général, faites pas 5 à 7. 4, 5, c'est déjà 4, là, ce serait vraiment le maximum selon moi que vous devriez courir si c'est vraiment juste pour votre santé. À moins que c'est la seule chose que vous aimez faire. Dans ce cas-là, faites-le 5-6 fois. Mais vraiment là, quand je parle avancé, je parle vous voulez vraiment. Vous êtes passionné de course, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, vous voulez surpasser vos temps. Alors là, 5 à 7 fois 60 à 90 minutes, dépendant de l'âge, ça peut être plus autour de ce que j'avais dit qui était intermédiaire, mais selon votre bracket d'âge, de faire 4 à 5 fois 45 à 75 minutes, je vous classifierais quand même en tant qu'avancé. Avec deux entraînements et une sortie longue, ça devrait ressembler à ça. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un plan d'entraînement? C'est une des rares choses qui est vraiment qui revient toujours puis qui est comme pas mal prouvée en psychologie de l'exercice. C'est que tu juste d'écrire un plan, que ce soit sur l'ordinateur ou sur papier, ça fait que tu as plus de chances de le réaliser. C'est con à dire, mais quand tu écris quelque chose, tu as plus de chances de le faire. Puis même moi, souvent, j'y crois pas, mais c'est vrai, les études le montrent. On parle tout le temps des SMART goals. Donc, SMART, S pour spécifique, donc un objectif spécifique. Je vais courir tel nombre de fois par semaine, je vais courir un tel nombre de minutes. Tu peux aussi fonctionner en kilomètres, mais moi j'aime mieux fonctionner en minutes pour ceux qui ont seulement une montre, donc qui fonctionnent simplement autant. Et aussi, parce que si on fonctionne en kilomètres, ben là, si on court plus lentement, ça va nous prendre plus de temps, donc ça va nous mettre plus de pression, tandis que si on va en minutes, ça va toujours être ajusté, la quantité de volume donné va toujours être ajustée en fonction de notre vitesse. Donc même si on court plus lentement, on va quand même courir aussi longtemps que la personne qui court plus vite. S pour spécifique, ensuite M, measurable, mesurable. Là, ça revient encore une fois à le temps qu'on va faire. Je suis capable de mesurer ça. La course est super parce que il y a plein d'affaires à mesurer. Ce que je recommande, comme je dis, c'est de mesurer le temps. A, c'est atteignable. Faut pas être irréaliste. Faut quand même choisir quelque chose qui est pour nous. Si vous n'avez jamais fait de course, commencez pas à essayer de faire le plan intermédiaire. Commencez avec le plan noob ou débutant, vraiment juste quelques sorties, parce que sinon, un, vous risquez de vous blesser, puis deux, vous risquez de décrocher, parce que vous atteindrez pas vos objectifs, puis quand on n'atteint pas nos objectifs, ça ne nous donne pas envie de continuer. Et T, je pense que c'était pour timed, donc qui a un moment dans le temps qu'il faut que vous ayez atteint cet objectif. Parce qu'on peut se donner un objectif, mais on va pas dire, ben, faut que j'aie atteint cet objectif d'ici tel moment. Donc, selon moi, quand on se fait un plan de course pour chaque semaine, mais c'est super, à chaque semaine, on peut voir si on a réussi notre objectif ou non. Et comme ça, ben, on se dit, OK, j'ai réussi là. Ah, j'ai pas réussi là, mais je vais me reprendre. Si on met quelque chose d'abstrait comme dans 4 mois, 6 mois, 1 an, ça peut être correct d'avoir des objectifs demain, mais selon moi, c'est toujours mieux d'avoir un objectif à chaque semaine. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Je regarde une semaine à la fois, surtout en ces temps-ci de coronavirus, que c'est l'incertitude, on ne sait pas c'est quand les prochaines courses. Ça peut être facile de se démoraliser si on essaie de penser au long terme de toutes les courses qu'on va manquer puis qu'on s'entraîne pour rien. Si tu regardes ça une semaine à la fois, selon moi, ça rend ça beaucoup plus faisable. Donc, selon moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Si on sort vraiment de l'essentiel, de base des matériaux que ça prend pour courir, selon moi, c'est vraiment un top des choses importantes. Et où est-ce qu'on peut faire ça? Vous pouvez faire ça sur Excel ou si vous n'avez pas Excel, puis en fait, moi j'ai Excel, mais je préfère faire ça sur Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel, mais gratuit. Moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis que j'ai rejoint mon coach dans le temps, en 2013. On fonctionne toujours avec ça aujourd'hui. Strava aide pour voir les kilomètres et tout, mais à chaque fois, dans le fond, j'écris combien, mon coach m'écrit combien de minutes il veut que je cours à chaque jour, et moi j'écris combien de minutes j'ai couru réellement. Puis tu peux faire des colonnes pour faire des totales et tout ça. C'est vraiment super. J'ai mon ami Mathieu qui est en train de sortir justement un programme pour faire des entraînements automatiquement. J'ai pas encore eu le temps de tester puis de regarder. J'en discuterai dans un prochain épisode. Selon moi, quand tu débutes, tu devrais pas aller dans des affaires super compliquées. Comme je dis, le template que je donne, selon moi, pour les débutants puis pour les noobs, selon moi, ça va être amplement suffisant. Pour les intermédiaires, possiblement aussi. Pour s'améliorer en course, c'est pas sorcier. Puis surtout au début, tout ce que ça prend, c'est de courir plus. Puis de faire quelques entraînements d'intervalle. C'est après, là, quand on s'en vient dans les niveaux plus élevés, que là, puis qu'on essaie de retrancher des secondes, là, on essaie d'un peu d'optimiser selon la science, selon comment optimiser la récupération et tout ça. Donc là, peut-être que ça va devenir intéressant, un tel programme, ou de voir un coach. Mais pour ceux qui vont écouter, qui commencent, je vous dirais, compliquez-vous pas, faites juste un plan pour vous, combien de temps vous voulez courir, écrivez ça à chaque jour, ok, moi je vais faire ça chaque jour. Soyez réaliste, mettez ça des jours que vous aurez le temps de le faire. Là, c'est sûr, en ce moment, certains d'entre nous ont peut-être plus de temps, certains ont peut-être moins, s'ils sont infirmiers ou qui travaillent dans des jobs qui sont en demande en ce moment. Mais dans le fond, écrivez ça, faites votre plan, selon moi, ça va vraiment beaucoup vous aider. Prochain point, des choses qui peuvent aider à la course, d'avoir un groupe d'entraînement. Et moi, c'est vraiment un des aspects que je trouve les plus importants et c'est ce qui me manque le plus en ce moment, ces temps du coronavirus. Je trouve c'est ça qui me fait sortir de mon lit le matin pour aller courir. En ce moment, je suis plus capable de me réveiller parce que j'ai pas personne avec qui aller courir. Tandis que dans le temps que je dis à mon ami, ou je sais que je vais rejoindre mon groupe, ok, on va se rejoindre à tel endroit à 7 h du matin, puis je me réveillais à 6 h 30, puis j'y allais, puis j'étais capable. Maintenant, oublier ça, me lever à cette heure-ci. Donc, ça aide énormément d'avoir des gens sur qui compter, surtout aussi pour les entraînements. Selon moi, c'est vraiment un must quand tu fais un entraînement d'intervalle où est-ce qu'il faut vraiment que tu pousses la machine, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui souffre, ça aide énormément. Si vous êtes débutant, selon moi, ça aide aussi d'avoir un groupe d'entraînement parce que tu as plein de personnes qui peuvent te donner des conseils, qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent te recommander des courses, qui peuvent te recommander, ah, t'as telle douleur, moi j'ai fait tel truc, ça m'a aidé, ou j'ai changé de soulier parce que j'avais telle douleur parce que je faisais ça, puis là, en faisant ça m'aide. C'est une mine d'informations d'avoir des gens qui ont fait de la course, avec qui on s'entraîne, et c'est juste tellement plus plaisant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment courir solo et ça c'est bien correct. C'est bien correct. Puis des fois j'aime ça courir solo. Je me souviens dans le temps quand je m'entraînais tout le temps avec du monde, puis j'avais toujours des courses avec du monde. Des fois une fois ou deux fois semaine, ça me faisait du bien d'être tout seul avec moi, avec mes pensées. Mais en général, je trouve les humains, on est des créatures sociales. C'est le fun de souffrir avec des gens, c'est le fun de jaser avec des gens, ça fait passer le temps tellement plus vite. Donc, selon moi, si vous commencez, ben, en ce moment, vous pouvez probablement pas avoir de groupe d'entraînement. Vous pouvez peut-être rejoindre, vous pouvez quand même rejoindre des équipes, puis vous pouvez avoir un support en ligne si on veut avec des coachs ou d'autres membres. Je sais, mon équipe Athlétisme Ville-Marie, on est toujours, même si on se voit plus pour nos sorties de course, on est très actif sur nos applications qu'on a pour se jaser. Puis on se donne des défis. Par exemple, cette semaine, on a créé des équipes pour faire un relais. Au total, on fait donc, 3 personnes. On va devoir faire un total de 5 km. Puis on va voir quelle équipe va gagner. Juste ça met du piquant. Ça rend la course, qui est un sport à la base un petit peu qui pourrait paraître un peu fade, un peu plate, long, ça rend ça beaucoup plus ludique, beaucoup plus fun. Donc, quand ça sera fini, du moins, je vous recommande fortement, si vous voulez vous continuer à faire de la course, de rejoindre un groupe, rejoindre une équipe, rechercher dans votre coin c'est quoi les équipes. Puis aussi au début en ce moment, c'est peut-être pas une mauvaise idée de commencer à regarder, puis voir peut-être que vous pourrez vous trouver un coach qui va vous aider à rester motivé à la course. Ensuite, un item qui peut être très utile, j'aime beaucoup. Dans le temps, je portais un peu d'écouteurs quand je courais. Ça m'aidait à me. J'écoutais un peu de musique, ça me motivait un petit peu. Mais j'ai pas des oreilles qui retiennent bien les écouteurs. Et donc, ça me prend vraiment des bouchons spéciaux. Pour ceux qui regardent, c'est comme des. Ceux-là, c'est des Earbuds que j'ai ajoutés à des écouteurs. Mais même ça, si je cours, ça tombe. La course, c'est vraiment gossant parce que c'est bien. On fait beaucoup de rebondissements. En fait, à chaque pas, c'est un atterrissage, puis un gros choc. Et donc, souvent, les écouteurs tombent. Tant mieux si ça tombe pas pour vous. Mais moi, j'ai comme les pires oreilles au monde et tout tombe. Récemment, j'ai découvert par contre, c'est des Trex Air de Aftershocks, qui sont des écouteurs qui fonctionnent avec la bone conduction. Donc, ils sont pas dans ton oreille, mais ils vont bien à côté de ton oreille. Et c'est de la vibration, ça va faire vibrer tes os et tu entends la musique comme à l'intérieur de ta tête. Mais tu peux toujours aussi entendre autour de toi parce que tes oreilles sont dégagées. Donc depuis que j'ai ça, ça fonctionne avec Bluetooth, avec mon cellulaire. J'adore ça. J'écoute des podcasts ou de la musique quand je cours. Honnêtement, ça me prend ça ces temps-ci parce que au millage que je fais, ça serait bien trop plate juste courir puis méditer. En tout cas, ça peut être le fun pour certaines personnes, mais à un moment donné. J'en ai assez d'être pris dans mes pensées. J'aime ça me divertir. J'écoute beaucoup j'écoute d'autres podcasts. Si vous pouvez écouter ce podcast, si vous avez des écouteurs qui sont faits pour la course. Donc, je recommande ceux-là. Honnêtement, ça m'a coûté autour de 110-120 $, ce qui est quand même un peu cher. Mais j'ai réussi à les avoir en rabais. Vous pouvez aussi trouver des knock-offs de ceux-là. Je pense que c'était des Vidon F1 que j'avais trouvé sur Amazon au début, que maintenant j'ai donné à ma blonde parce que les Trex Air sont un peu meilleurs. Que c'est le même principe. Ceux-là, je les avais eu pour 55 $. Mais sinon, vous pouvez aussi avoir des écouteurs standards Bluetooth faits pour la course. Que ça peut varier. Ça peut varier autour de 50, 60, 70. Si ça vous fait la job pour vous, tant mieux. Allez-y pour ça. Mais moi, je sais que tout tombe. Donc, depuis ce temps-là, j'adore ça. J'adore mes Trex Air qui tombent. Ça peut pas vraiment tomber. C'est comme un casque autour de la tête. C'est ultra léger. Puis, je suis quand même capable d'entendre les alentours vu que ça bloque pas mes oreilles. C'est légal de porter ça aussi en faisant du vélo, vu que ça ne bloque pas les oreilles. Donc, si je fais du vélo aussi, je peux porter ça. Donc, vraiment, je trouve que c'est quand même, surtout en ces temps du coronavirus, je mets ça quand même à un échelon plus haut que je mettrais normalement. En temps normal, personnellement, je sortais à peu près, très rarement, j'écoutais des podcasts ou de la musique quand je courais parce que je courais avec des gens. Mais maintenant que toutes mes sorties sont tout seul, selon moi, c'est quand même un pas pire must d'avoir des écouteurs pour se divertir un peu, pour aider à passer le temps. Souvent, on réalise pas, puis oh, c'est déjà fini. La musique, ça peut aider aussi certains. Moi, une chose que j'ai réalisée, à un moment donné, je courais avec la musique, puis je réalisais que j'oubliais un peu, j'écoutais pas vraiment la musique quand je courais, parce que la qualité n'est pas parfaite vu que tu es en train de courir. Puis c'est un peu trop de stimulation en même temps. Je sais pas trop comment décrire, mais j'oubliais souvent la musique quand je courais. Je faisais juste regarder autour de moi. Puis je me dis pourquoi j'écoute de la musique. Tant qu'à être, je vais juste regarder autour de moi. Tandis qu'un podcast, vraiment, je suis capable de me concentrer à 100% sur le podcast quand je l'écoute. Puis selon moi, ça me fait pas perdre le sens de où est-ce que je suis. Donc, j'aime beaucoup ça. Ça vaut la peine, selon moi. Ça vaut l'investissement d'un 50 ou d'un 100, 120 $. Je dirais, payez pas plus que 150, 160 pour ça. Mais vraiment, en ces temps-ci de coronavirus, si vous avez votre cellulaire, que vous aimez ça, écouter des podcasts, mettez votre cellulaire dans votre poche ou sur votre armband, selon moi, ça vaut vraiment la peine. Aussi, ça vient me faire penser à un point que j'avais oublié de mentionner. Pour les poches de short, si vous les essayez en premier, je vous recommande fortement, faites le test du cellulaire. Donc, vous mettez les shorts, mettez votre cellulaire dans votre poche et courez. J'ai différents shorts avec des poches. Certains, le cellulaire va beaucoup trop rebondir dans ma poche, tandis que d'autres, ça rebondit pas assez pour que ça gosse. Mais ça varie vraiment d'un short à l'autre, de comment la poche est faite. Donc, je vous recommande vraiment de faire le test si vous allez les essayer avant. Si vous commandez en ligne, ben, vous le verrez quand vous l'aurez reçu. Mais si vous avez la chance de l'essayer, faites ce test-là si vous comptez courir avec votre cellulaire parce que c'est drôle à dire, mais certaines poches ça va bien aller, d'autres poches ça va pas bien aller. Ça va aussi en fonction de comment votre cellulaire est lourd, mais moi j'ai un Pixel 2 standard qui est quand même, je dirais que c'est le format d'un petit iPhone environ. C'est vraiment super, ça fit parfaitement dans la poche. Avant j'avais un plus gros cellulaire et là ça rebondissait tout le temps. Mais maintenant avec un petit cellulaire, ça va bien, ça rebondit peu dans la plupart de mes poches. Mais faites ce test-là. Ensuite, avoir un compte Strava ou un réseau social de course, selon moi, ça aide encore plus à ces temps du coronavirus, puisque ben, maintenant on n'a plus l'aspect du vrai groupe, le vrai social, si on veut. Donc maintenant, c'est ben, le social en ligne. Une chose que j'ai remarqué depuis le coronavirus, il y a plein de monde. À chaque fois, j'ai des notifications d'amis qui ont rejoint Strava. Aussi de plus en plus de followers parce que le monde rejoint le réseau. Les gens s'y mettent parce que c'est quand même le fun de pouvoir voir tes sorties de course, voir combien tu as couru, de pouvoir comparer avec d'autres personnes. C'est sûr qu'il faut faire attention pour pas que ça vire maladif, qu'on soit rendu à se comparer à des top élites, puis que là on soit comme, oh, je suis ben une merde. J'essaie de pas trop faire ça souvent, mais des fois je trouve ça le fun de juste regarder telle personne, puis par défaut tu peux voir la comparaison. Quand tu regardes le compte de quelqu'un, tu peux voir, ok, lui a fait telle quantité d'entraînement, puis tout. Ça peut être intéressant. Mais c'est aussi juste pour l'aspect de comment ça va classifier tes sorties de course. Moi, j'adore ça j'utilise ça et j'ai bien du plaisir avec ça. Et je pense que la plupart des gens, vous devriez au moins essayer ça. C'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui aiment pas ça parce que justement, t'as cet aspect de de comparaison avec les autres. Je peux comprendre. Mais je recommande au moins d'essayer. Puis il y a différents réseaux sociaux de course. Strava, c'est le plus grand selon moi, mais tu en as aussi d'autres. Runkeeper, Nike Running, tout ça. Je sais pas en fait c'est quoi l'aspect, s'ils sont tous un gros aspect social. Je sais qu'il y a Garmin Connect, que moi j'utilise par défaut pour synchroniser mes courses avec ma montre, mais qu'en réalité j'utilise pas. Donc selon moi, ça vaut la peine de regarder ça. C'est surtout en ces temps-ci, ça peut être le fun de comparer, commenter des runs d'autres personnes, donner des kudos, recevoir des kudos qui sont comme des likes dans ce réseau social-là. Ça peut avoir son mérite. Essayez-le, puis voyez ce que vous en pensez. Ensuite, là, je vais aller certains. Il y a un article qui est sorti récemment qui était sur espace.ca, 13 mythes à démolir sur la course à pied. J'en ai pris quelques-uns, justement, de ces mythes-là, parce que je trouvais ça intéressant, parce que c'est souvent des questions qui reviennent souvent. Puis tout d'abord, il y avait l'idée des crampes. Puis là, je vais lire mot pour mot ce qui était dit dans cet article. Il dit. Pour ce point-là sur les crampes, comment gérer ça. Puis ils disent, en fait, ce point-là, c'était que les boissons électrolytes, est-ce que c'est important? Donc, ça dit l'idée derrière ces boissons est que leurs électrolytes vous permettront d'éviter les crampes. Sauf qu'à ce jour, la science pointe plutôt vers un déséquilibre neuromusculaire amplifié principalement par la fatigue. Alors, ralentissez tout simplement. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Quand vous avez une crampe, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un remède magique? Est-ce que c'est parce que j'ai pas pris assez de Gatorade? Non, il faut juste ralentir. Les crampes, ça vient quand on pousse trop. Très souvent, il peut avoir certains types de crampes, des fois, qui peuvent être reliées à vraiment un grave manque de sel ou d'électrolytes. Mais je pense 90-95% du temps, on prend une crampe parce qu'on est en train de pousser trop. Puis c'est correct. Moi, je me souviens au début, quand je faisais mes courses, je prenais tout le temps des crampes. Puis plus je me suis entraîné, plus les crampes ont commencé à partir. Je me souviens au début, au début de quand je courais, j'en avais toujours des crampes. Et plus on fait de courses, ben, moins on en a, plus le corps s'adapte. Et à chaque fois, quand je fais une course, si je commence à prendre une crampe, puis je suis à moins que la moitié, je ralentis un peu. Puis j'attends que la crampe passe. Honnêtement, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent qu'il faut manger des bananes à cause du potassium. C'est correct de manger des bananes. De toute façon, c'est la bouffe classique du coureur. Donc, c'est pas mauvais. C'est plein de carbs. Ça peut peut-être aider, mais vraiment, dans 95% des cas, selon moi, quand vous prenez une crampe, quand vous avez une crampe, c'est simplement parce que vous allez un petit peu trop vite. Il faut simplement ralentir, bien souffler, vraiment prendre des grandes respirations. Et c'est ça. Étirement, ça aussi, ils en parlaient dans l'article des mythes. Est-ce qu'il faut s'étirer? Est-ce que ça va aider à prévenir les blessures? Non. Tout simplement non. Il faut jamais faire d'étirement statique avant d'aller courir. Donc, des étirements statiques, c'est les étirements un peu classiques auxquels on pense. Donc, par exemple, de faire le papillon, de faire d'essayer de toucher à ses orteils en gardant les jambes droites. Ce type d'étirement-là, ce qui est dit statique, où est-ce qu'on bouge peu, où est-ce qu'on fait juste étirer les muscles, c'est dangereux de faire ça avant de courir. Vous augmentez votre chance de blessure. C'est correct si vous voulez faire des étirements dynamiques, mettons des mouvements balistiques avec les jambes, où est-ce que vous allez chercher un grand range of motion, une grande range de mouvement. Je me perds dans mes anglicismes. Mais dans le fond, ça peut être correct, des étirements balistiques ou est-ce qu'on dynamique ou est-ce qu'on bouge la jambe, mais statique à éviter avant. Après la course, ça peut être correct de faire du statique si vous voulez, si ça vous tente d'avoir plus de range of motion, d'être un peu plus flexible, d'avoir plus de flexibilité. Mais il n'y a pas de preuve scientifique que ça va réduire votre risque de blessure. Et il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc, c'est pas par manque d'études qu'on dit ça, qu'ils ont pas encore fait de bonnes études qui prouvent ce lien. Ils ont fait plein d'études qui prouvent cette absence de lien. Donc, si vous avez des blessures et que vous vous étirez pour réduire vos blessures, je voudrais prioriser autre chose. Prioriser peut-être à la place plus des exercices, les exercices que votre physio vous donne, des exercices de renforcement musculaire, mais ne perdez pas votre temps avec des étirements. Faites seulement des étirements si vous voulez augmenter votre flexibilité en général dans la vie. Ou peut-être pour certaines personnes, peut-être que pour des individus, peut-être que ça les aide eux. Mais si on regarde au niveau de la population, statistiquement, ça ne va pas vous aider. Bas de course, j'ai déjà mentionné, est-ce que c'est nécessaire? Selon moi, non. Là, il y a certaines personnes qui vont dire le contraire, qui vont dire que ça prend vraiment des bas de course qui sont en polyester et non en coton pour qu'ils vont pas tout absorber toute la moisissure et qui deviennent pas lourds et qui soient. On veut des bas qui soient plus respirants. C'est sûr, pour une course, mettons, genre, je vais utiliser mes bas de course, mais pour mes jogs réguliers, honnêtement, j'ai des bas standards. Je me souviens, j'ai acheté des bas super cheap qui coûtent pas cher, puis ça fait entièrement la job. Souvent, je me fais juger aussi parce que c'est des bas gris qui ont l'air vraiment cheap là, en coton. Oui, je les ai défoncés, puis ils sont pas mal tous scrap maintenant, mais ils ont fait leur job, puis c'est pas mal ça qui va arriver avec la majorité de vos bas de course, peu importe. Oui, des bas de course qui sont vraiment faits pour la course vont durer un petit peu plus longtemps qu'il y a des bas standards, mais ils vont vous coûter des sommes exorbitantes. C'est dégueulasse combien ils chargent pour ça, les compagnies. Des fois, je vois des affaires de 20$ pour une paire de bas. J'en reviens pas. Récemment, j'avais réussi à en trouver pour pas cher sur Decathlon en rabais. Donc ça peut être, si vous voulez vraiment des bas de course, vous pouvez regarder. Peut-être Decathlon a des pas pires deals, genre 3 paires pour 6$, mettons. À 2$ la paire, c'est pas si pire. Mais vraiment, selon moi, c'est pas du tout une nécessité d'avoir des bas de course. Ensuite, des bas de compression, non. Puis ça, je pense aussi que c'est dans l'affaire des mythes à démolir sur la course à pied qui était dans Espace. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Il n'y a pas d'études qui ont été faites qui montrent que les bas de compression vont vous aider à récupérer plus vite. Ça revient un petit peu à mon rant que j'ai eu la semaine passée sur un peu la science, si on veut, qui est souvent, on explique un phénomène scientifique avec, on explique, ah, mais c'est telle chose qui va, telle molécule qui va affecter tel muscle et qui va faire que ça va augmenter la récupération. Mais ça, c'est tout de la théorie. Il n'y a pas d'études pratiques qui ont montré que ça aidait. Puis croyez-moi, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été mis là. Vous pensez pas que les Nike, puis les PCP compression, je sais pas trop c'est quoi les marques. Il y a sûrement plein de marques qui ont mis des gros, quand même des bonnes sommes d'argent pour faire des études, pour essayer de trouver ce lien-là. Et il n'y en a pas. Tout ce qu'ils sont capables de montrer, c'est, ah, il y a plus de sang maintenant qui circule, le sang circule plus vite. Ou peut-être, mais ça prouve pas que ça va vous aider à récupérer. Ça prouve pas que ça va vous aider à aller plus vite. Donc, selon moi, évitez de dépenser votre argent dans des bas de compression parce que souvent, ça va se vendre 40, 50$. C'est un business à très haute marge. Mais selon moi, en l'absence de preuves scientifiques, ça vaut pas la peine de dépenser d'argent là-dedans. Dépenser d'argent sur d'autres items que j'ai mentionnés plus avant qui eux, sont prouvés. Ben, On n'a pas besoin vraiment de preuves scientifiques. Selon moi, une montre, on sait que ça va t'aider à mesurer, à chronométrer. Je pense pas qu'on a besoin de preuves pour ça. Puis selon moi, de pouvoir mesurer, ça va être hyper utile. D'avoir des bons shorts, tout ça, beaucoup plus à prioriser. Si jamais vous avez bien du cash à dépenser, vous voulez vous rendre là, allez-y. Mais selon moi, personnellement, je pense pas que j'ai jamais. Je pense que j'ai acheté une fois des bas de compression juste parce qu'ils étaient en gros rabais. Puis je les utilise jamais parce qu'ils sont pas confortables, parce qu'ils sont super longs puis ils pèsent très fort. Je sais que ma coéquipière Mel, elle aime bien ça porter, elle aime la sensation que ça lui donne. Par exemple, quand elle va devoir faire beaucoup de route avant de se rendre à une compétition, tant mieux pour elle. Mais personnellement, moi, j'ai jamais rentré là-dedans. Puis je vais pas rentrer aujourd'hui non plus. Un autre point qui était dans cet article, je me suis quand même beaucoup inspiré. C'est arrivé en temps opportun, juste avant que j'enregistre. Il disait, un des mythes qu'il y avait, est-ce que c'est mieux d'aller courir le matin, d'aller courir le midi, d'aller courir le soir? Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour aller courir? Et la réponse qu'il donnait, et je suis entièrement d'accord, c'est non, il n'y a pas de meilleur moment, c'est simplement ce qui vous convient le mieux. Ça, c'est le meilleur moment. Si c'est plus simple pour vous d'aller courir après la job ou d'aller courir avant la job ou d'aller courir sur la pause du midi de la job, faites ça. Allez courir quand ça va être le moins chiant pour vous. Comme ça, vous allez plus apprécier la course. Puis ça aura un effet bénéfique pour vous. Vous pouvez voir peut-être, vous dites, ah, si je vais sur ma pause midi, c'est bon parce que là, après ça, je suis plus allumé l'après-midi. Faites ça. Faites ce qui vous convient le mieux dans votre horaire. Sur des fois, c'est un peu difficile si on a des entraînements de groupe parce que des fois, c'est pas au moment qu'on veut. Donc, il faut faire la balance entre ça puis le convenience factor. Mais. Scientifiquement, il n'y a pas vraiment de meilleur moment. En fait, si vous voulez, si c'est une question de performance à vos courses, ben, ce qu'on sait, c'est qu'on devient, si on fait nos courses le matin, ce qui est le standard pour les courses sur route, d'habitude toujours autour de 8, 9 heures du matin, 10 heures, eh bien, je vous recommande d'essayer de faire certaines sorties, certains entraînements à cette heure-là. Parce que le corps s'habitue à forcer à ce moment-là. Si vous faites vos entraînements à 9 h du matin, votre corps va graduellement apprendre, OK, il faut que je sois réveillé à 9 h du matin, il faut que je sois prêt à donner un bon effort. Si vos compétitions, c'est de la sur-piste, puis c'est plus tard, ou que c'est un marathon en Europe qui est la nuit, ou je sais pas, ou qui est tard le soir, ben alors essayez de faire certains entraînements à cette heure-là, ça peut vous aider. Il y a quand même des études qui pointent dans cette direction. Mais vraiment, en général, je pense que je prioriserais plus l'aspect de ce qui vous convient, l'aspect d'apprécier la course, puis de pas le faire à un moment qui est chiant pour nous parce qu'on pense que ça va peut-être aider. Sur moi, c'est plus important de prioriser juste d'être bien dans la course. Puis ensuite de ça, vraiment, si on veut vraiment essayer de maximiser nos chances, puis que ça ne nous dérange pas trop, ok, de s'entraîner autour de 8-9 heures, probablement pour ceux qui font des courses sur route, ça peut probablement vous aider. Mais faites ce qui vous convient dans le fond. Maintenant, côté nutrition, côté sommeil, côté récupération en général, c'est recommandé de pas manger de la scrap. C'est recommandé de bien dormir. Je pense pas que je apprends rien en faisant ça. Pour la course, l'aspect récupération est très, 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 très important, surtout quand on est rendu à faire ça à un niveau, même je dirais au niveau intermédiaire, surtout ouais, au niveau intermédiaire, même là, ça devient très important. Quand on est débutant puis qu'on ne fait pas tant de courses, peut-être que vous allez moins sentir vu que vous n'avez pas deux courses consécutives, mais si vous lésinez sur le sommeil ou que vous lésinez sur la nutrition, ça peut avoir un impact négatif. Mais vraiment, j'ai aussi fait un épisode, un de, je pense, je me souviens plus de lequel, mais avec Annick Besseau, une nutritionniste, où est-ce qu'on parlait vraiment de nutrition sportive. Bien, en général, ce qu'elle dit, puis ce qui est recommandé par la plupart des nutritionnistes, c'est juste essayer de manger un peu plus de légumes, légumineuses. Faites attention quand même. Mais vraiment là, on est vraiment dans le fine-tuning. Selon moi, courir pour courir, ça va pas rien changer. Là, on parle plus. Peut-être ça rendra vos runs un petit peu plus agréables, en effet. Si je sais pas si vous êtes toujours constipé, puis là, vous allez courir, puis vous vous chiez dessus à chaque fois. Peut-être que là, ça peut aider si vous mangez plus de légumineuses, puis que vous allez chier avant de courir. Donc ça pourrait aider en effet. Personnellement, j'ai été végétarien depuis 6, 7, 8 ans. Je me souviens plus trop. Puis j'essaie de manger un peu vegan. Selon moi, ça tu peux totalement avoir une nutrition omnivore. Puis si tu fais attention, en fait, même pas si tu fais attention, là, si tu fais juste pas n'importe quoi, tu vas être amplement correct. Mais dans le fond, moi personnellement, depuis que j'ai viré végétarien, j'ai pas eu aucun problème en termes d'évacuation en temps de course. En fait, j'en ai eu quelques fois, mais d'habitude, ça se fait avant. Donc, ouais, de manger des légumineuses, ça peut possiblement vous aider si vous avez souvent ce problème-là de courir, puis que là, tout d'un coup, ça vous prend par surprise parce que vous n'étiez pas vidé avant. C'est un classique qui peut arriver quand on fait une de nos premières longues sorties, que si on n'est pas allé aux toilettes avant, on peut se faire surprendre. Ou même des fois, moi, ça m'arrive souvent que j'allais aux toilettes avant, puis malgré ça, il y en avait un autre. On apprend en apprenant. Faites attention à ça. On connaît, je pense, tous au moins un ou deux coureurs qui ont des belles histoires de shorts bruns. Personnellement, je suis chanceux. J'ai passé proche une couple de fois, mais je me suis jamais rendu là. Mais je connaissais bien des coureurs que souvent c'était ça. C'était le classique. Au moins, ils étaient rendus habitués, puis ils savaient quand ça s'en venait, puis ils allaient dans la forêt ou quoi. Mais la nutrition peut aider pour cet aspect-là. Rester bien hydraté aussi, quand même assez important. Je trouve que la course va aider la nutrition. C'est vraiment une symbiose un peu. Parce que plus tu vas courir, plus tu vas vouloir faire attention un peu à notre nutrition. Comme quand tu cours, après ça, je reviens, puis là, je bois beaucoup parce que j'ai un peu sué. Mais je bois plus que ce que j'ai sué, donc ça m'aide vraiment comme à réveiller mon système. Là, je vais boire beaucoup, là, je vais manger beaucoup. Puis aussi, j'ase avec mon ami, souvent Phil, il me dit, il me raconte, oh, maintenant que je suis plus à la course, ben, crème, je sors moins tard, puis je me saoule moins à la face parce que ben sinon je vais avoir le lendemain, la course va être vraiment pénible. Fait que, comme c'est pas tant que tu vas essayer de penser à la nutrition puis de faire tout pour la changer. En fait, c'est pour que ta course soit meilleure, mais en fait, c'est plus que vu que tu fais de la course, tu as un style de vie qui va un peu s'adapter. Naturellement, tu vas avoir des désirs, un peu moins d'alcool parce que tu as déjà un peu un high de la course. Puis t'as pas envie de sentir les conséquences de faire une sortie de course quand t'as bu la veille. Donc ça va, oui, il faut faire attention à la nutrition, mais selon moi, ça vient un peu avec. C'est un peu un package deal. Puis pour le sommeil aussi, un peu dans le même sens, certaines personnes peuvent avoir de la misère à dormir un peu après avoir fait un entraînement. Donc c'est sûr, c'est recommandé de ne pas faire un entraînement super intense juste avant d'aller dormir. Mais selon moi, je pense que ça aide à régulariser ça un peu de courir. J'ai entendu beaucoup d'histoires en fait, en général, on sait que le sport, l'activité physique, ça aide juste en général. C'est super bon pour tous les aspects physiques et psychologiques. Donc, puis là-dedans, le sommeil, je pense, ça entre là-dedans. Donc, selon moi, ça va aussi vous aider. C'est sûr, c'est bon. Il faut faire attention à essayer de bien dormir. Moi, c'est pas ma force. Tant que ça, j'ai un peu de misère ces temps-ci avec le coronavirus. Justement, vu que je me lève super tard, là, je me couche super tard. Mais j'essaie de mon possible. J'essaie de me remettre sur une horloge biologique un peu plus standard. Et selon moi, la course m'a vraiment fait réaliser l'importance du sommeil. Parce que c'est vraiment pénible de courir quand tu es fatigué. C'est dans le sommeil que tu vas vraiment. Tes muscles vont beaucoup se réparer. On a besoin de l'aspect récupération pour progresser dans la course. En fait, c'est là qu'on fait la progression. Et donc, selon moi, c'est important, mais ça va venir avec un petit peu. Si c'est qui conclut cet épisode, que je voulais faire un peu, vu que j'avais remarqué qu'en ces temps du coronavirus, il y a beaucoup de monde qui se met à la course. Donc, je voulais essayer de donner un petit peu un guide sur les bases de ce qu'il faut savoir, les musts à savoir en se mettant à la course. Puis je réalise que j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je pensais. Je m'attendais à faire un épisode de 45 minutes, peut-être 1 heure max. Puis là, finalement, je vois que je suis à 1h35. Mais bon, j'espère que ça a été, que ça vous a donné les bases que vous pensez nécessaires. J'espère que j'ai pas oublié trop de points. C'est sûr que j'en ai oublié. Mais laissez-moi savoir sur la page du monde de la course si j'ai oublié certains points, s'il y a certains points que vous êtes d'accord, pas d'accord. J'ai envie d'entendre votre opinion. Moi, j'adore ça. Dire des commentaires des gens, puis après ça, répliquer ou dire ah ouais, je suis bien d'accord. C'est toujours le fun. Et si vous voulez supporter le podcast, ben abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur Spotify, sur toutes les plateformes, Apple Podcast. Suivez la page Facebook, Instagram. Et si vous aimez vraiment ça, puis vous voulez avoir un shout-out ou vous voulez juste encourager, ben, vous pouvez aller sur la page Patreon du monde de la course. Et avec une carte de crédit, vous pouvez donner le montant que vous voulez à chaque mois qui sera prélevé, et ça va être prélevé en dollars US, bien sûr, donc faites attention. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous les auditeurs. J'espère que ça va bien sortir, cette affaire-là, ce long rant de 1h36 minutes de juste moi qui parle. Mais je voulais faire ça un peu de même pour pas avoir ma blonde à côté tout le long que moi je dis genre, puis elle essaie de dire un commentaire, puis là elle dit, puis là c'est fini. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir à la place de l'avoir pour ce segment-là, mais que le reste c'est juste moi qui rant un peu, puis je voulais faire ça pas trop long, mais bon, finalement c'est long. Écoutez ça pendant vos sorties. J'espère que vous avez apprécié ça pendant votre sortie. Et si vous achetez des écouteurs, vous pourrez écouter ça pendant d'autres sorties. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne course!